Gameblogueuse, gameblogueur, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog, podcast 353. Avec moi aujourd'hui, pour ce moment privilégié, il y a évidemment Rami.
Ah oui, salut,
moment privilégié que vous pouvez voir d'ailleurs en avance. Si vous êtes premium, ne l'oublions pas, Julien.
Bonjour.
Et Romain.
Wesh.
Rami est fan de Snapchat, hein, c'est ça, hein.
Exactement.
C'est là où tu passes tes moments privilégiés.
Je vais pas en dire plus.
On peut te retrouver. C'est quoi ton pseudo sur Snapchat s'ils veulent te retrouver?
Ça va.
Passer les moments privilégiés. Rami double goût.
Le géant boudier.
Et là, je ne veux pas.
Vous voyez, dans cette bonne ambiance, cette bonne humeur, nous allons discuter tous ensemble de l'actualité de la semaine et des événements les plus marquants.
Et il y en a eu.
À commencer par la fiesta du jeu en multi compétitif en ligne.
Il y en a partout,
notamment avec Metal Gear Online qui est arrivé ce 6 octobre dont on va vous parler évidemment, et aussi l'événement avant sa grande sortie le 19 novembre prochain sur PS4, PC et Xbox One, c'est Star Wars Battlefront qui est entré en bêta ouverte et que tout le monde a envie d'essayer à la rédac, tout le monde joue. D'ailleurs, on n'avait pas écrit une news aujourd'hui, on a fait que jouer à Battlefront.
Bon, par contre, hier, on en a écrit beaucoup des news Star Wars.
C'est vrai.
Mais alors, on peut remercier Rami, hein, qui, grâce à lui, beaucoup de game bloggers ont pu bénéficier de la bêta en avant-première, plusieurs heures avant la sortie, avec une petite astuce qui marchait à la fois sur Xbox One et sur PS4.
C'est ça, exactement. Ouais.
Merci Double Goût, Snapchat, Rami Double Goût.
Si vous voulez passer des moments privilégiés avec Rami, n'hésitez pas. Vous pouvez le contacter.
Il attend que ça.
L'autre fiesta de la semaine, c'est la date du 23 février 2016, puisque nous avons la chance de pouvoir vous parler non pas de un, mais deux jeux qui vont sortir à cette date-là. Lesquels? Eh bien, tout simplement
Deus Ex,
Mankind Revolution, Mankind Divided. Human Revolution.
Ce sera le 3,
Mankind Revolution.
Ce sera le Mega Mix.
Ouais, c'est ça.
HD Remaster.
Et donc, Mankind Divided, que Romain a eu l'occasion d'aller voir à Montréal et dont il va nous parler, évidemment, puisqu'il a eu l'occasion d'y jouer énormément. Mais il y a un autre jeu qui va sortir à cette date-là. Et c'est un peu la surprise de la semaine, c'est Ubisoft qui nous l'a sorti, aussi avec un peu poussé par l'aide d'IGN Turquie. c'est Far Cry Primal. Un Far Cry qui revient au temps de la préhistoire. On va en parler tout à l'heure parce que c'est une annonce qui nous paraît un petit peu, comment dire, étrange.
Tu trouves ?
Oui.
Ah bon ?
Oui.
On va en parler.
On va en parler tout à l'heure.
Qu'est-ce que t'en penses, Epona ?
Epona qui est toujours...
dans le mutisme, elle veut pas avoir de problème, Epona.
Non, je crois qu'elle tient à garder son emploi.
Bah, elle tient chaud, hein, surtout.
Ouais. Ah oui, elle tient beaucoup d'amour. Bref. Maintenant que nous avons établi le sommaire, nous allons nous tourner vers Rami.
Oui.
Rami, il y a eu la win cette semaine.
Ouais,
qui
la win du côté de FIFA 16, d'après nos chiffres. Les ventes françaises de FIFA ont touché les plus de 500 000 exemplaires.
Tout pété.
Tout pété, il a tout déchiré sur son passage.
Comme toi sur Snapchat.
Du 21 au 27 septembre, c'est sur cette période-là en fait.
En une seule petite semaine, donc en fait, 520 000 ventes.
Il est sorti le 24.
Il est sorti que le 24 en plus, ouais.
Ça fait 3 jours.
Ouais, et surtout que PES est plutôt loin.
Ouais. Donc il lui est sorti le 17 septembre.
Ouais.
Ah bah là, il le voit même pas dans le rétroviseur.
Lui, sur la même période, genre la semaine de sortie, c'était 44 000 ventes selon nos informations.
Ouch.
Donc 44 000, 520 000, ça fait très 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 mal quand même.
Encore une fois, c'est pas le mérite qui est récompensé, comme au football de toute façon.
Exactement.
Parce que là, PES.
Sinon, Marseille aurait gagné contre le PSG.
Je sais pas, je l'ai pas regardé.
Si, ils se sont pas mal démerdés, deux pénalties,
ouais,
machin.
Mais je l'ai absolument pas regardé. Ça ne m'a pas intéressé à aucun instant ce faux classico.
En tout cas, il n'y avait pas d'enjeu énorme. Mais par contre, ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que le découpage, la répartition des ventes, pour en plus FIFA qui est poussé au niveau marketing par Xbox, c'est compliqué, hein, puisque plus de 70 ou 75% des ventes se sont effectuées sur PS4. Je parle pour la France, hein, selon nos informations, toujours en provenance de la distribution. Chiffre GFK. En fait, c'est PS4, c'est PS3,
exact.
Et après, c'est Xbox One, Xbox 360. Mais loin.
Et même sur le classement CLGFK, effectivement, 5ème marche, c'est même encore la PS4 avec l'édition Deluxe.
FIFA a fait main basse sur les charts français.
Attendez que WWE arrive, vous allez voir.
Attention, troisième corde.
Les charts vont exploser en France.
Non, mais pour donner
sur
un
les 10 premières pages, ça sera place, ça sera du catch.
pour donner un ordre d'idée, FIFA c'est vraiment redevenu un rouleau compresseur depuis quelques années, phénoménal. L'année dernière, c'était le jeu, le produit culturel le plus vendu en France avec FIFA 15, 1 229 000 je crois ventes. Bon, c'est-à-dire qu'en une semaine, pas une semaine, hein, tu l'as dit Plumeau très justement, en trois jours ils ont fait quasi déjà la moitié. Enfin, bon, après c'est normal, au démarrage ça part fort et après ça va se calmer.
C'est impressionnant.
Il y a Noël encore qui va arriver, les fêtes de fin d'année. Et pour donner un ordre d'idée, un jeu qui se vend très bien, par exemple un Metal Gear, c'est en gros c'est 150 000 ventes, c'est déjà très très convenable. Donc là,
sur les phénomènes qui font des chiffres
quand on dépasse le million, voilà, c'est un phénomène, comme les PES l'avaient été à son époque plusieurs années de suite.
Et ça fait longtemps,
et c'était il y a longtemps, PES, effectivement. Mais maintenant justement, je vais me tourner vers Romain.
Oui,
mon petit Romain.
Oui,
toi tu n'es pas chargé de Lewin.
Non,
tu es chargé.
Je suis sûr, c'est les mauvaises nouvelles. C'est pas une mauvaise nouvelle, c'est plutôt un petit
fail. En fait,
fail.
C'est une bonne nouvelle pour les joueurs, et c'était une mauvaise nouvelle plus pour Capcom, c'est que Laura, son nouveau personnage de Street Fighter 5.
Oh,
j'ai essayé de faire un accent.
Putain, j'ai eu une absence d'une seconde, Laura.
Non, j'ai essayé de la faire à la brésilienne, mais je maîtrise mal l'accent brésilien.
Moi, je pense
personnage...
qu'il faut là t'as un petit peu de place, c'est plutôt de la capoeira.
Laura. Personnage brésilien inédit de Street Fighter 5, donc qui a fuité tout d'abord chez Famitsu.
Ça nous regarde.
Qui s'est un peu, il s'est un peu emmêlé les pinceaux, ce cher Famitsu. Plutôt que de diffuser des images de Zangief, ils ont diffusé des images de Laura, puisque on va le prononcer comme ça.
On va dire Laura. Ouais.
Et ensuite, double kill, c'est PlayStation sur YouTube qui balance le trailer comme ça d'annonce de Laura. Et aujourd'hui, Capcom, comme si de rien n'était, on vous annonce l'arrivée de
Laura.
On vous annonce l'arrivée de Laura dans Street Fighter 5.
C'était un peu on veut pas que ça se passe normalement pour cette annonce, en fait.
Mais vous vous rendez compte quand même que Street 5 est un peu maudit, parce que l'annonce initiale du jeu devait être faite au PlayStation Experience, ça devait être un gros truc. On l'avait d'ailleurs teasé un peu parce qu'on était au courant depuis bien longtemps. Ça devait être un gros impact, en plus exclusivité PlayStation, blablabla. Et bah ça avait fuité genre 3 jours avant, pareil.
Donc mais il y a une malédiction,
ce jeu fuite.
Bah c'est le risque d'uploader des vidéos sur YouTube en avance et de les déclencher manuellement, on va dire, des fois une mauvaise manip ou un truc, et là la vidéo part. Pareil pour le contenu programmé sur internet d'une manière générale, et on sait que Capcom est quand même vachement coutumier du fait, ça leur arrive super souvent. Ils protègent pas assez bien leurs informations.
Il y en a beaucoup, je crois qu'on en reparlera dans quelques instants avec Far Cry.
Mais je disais que c'est une bonne nouvelle pour les fans, parce que les joueurs finalement, eux, ils veulent avoir les infos le plus rapidement possible.
Exactement.
Donc eux, ils ont su avant tout le monde avant ce qui était prévu, qu'il y aura un nouveau personnage dans Street 5.
Il est plutôt
donc finalement pas de quoi se plaindre.
Elle est plutôt bien dessinée, Laura, on peut le dire. Disons elle a la forme, quoi.
Bah disons
Poufie,
Capcom.
Pourquoi cette sélection d'images? Je comprends pas. Mouvement, ça donne quoi?
Si vous êtes très bien, effectivement, vous pouvez voir Laura.
Disons
très gros plan.
Les designers de chez Capcom ne semblent pas être aussi touchés par les polémiques que d'autres.
Ils sont pas complexés.
Non, ça a pas l'air de les gêner. Par contre, j'ai vu un truc un peu bizarre, c'est que j'ai vu une capture d'écran du stage brésilien, et à la place du Corcovado, ils ont mis le trophée de la Coupe du
monde
de football.
Absolument.
Non.
Ils ont remplacé Jésus par
un trophée. Ça fait quelque chose.
Ils ont fait sans Jésus.
Non, c'est 100% Coupe du Monde.
Là, c'est 100% Coupe du Monde,
Oui, c'est moins polémique. Mais les nouveaux persos de Street 5 sont pas mal, dans l'absolu.
Ouais, on peut le dire. Ouais. Moi, j'aime bien
Armika.
Rachid. Avec son, Rachid,
Rachid, ouais,
avec,
il
son, avec son scouter en plus.
C'est vrai qu'il fait très DBZ.
Je trouve ça assez spécial d'avoir mis un scouter sur un personnage.
Tu crois que quand il se fait
comme ça, mais
quand il perd, il explose.
Ben, je sais pas. Franchement, je trouve ça incroyable. Enfin, j'aime bien l'accessoire et de l'avoir mis comme ça dans le jeu.
Je déplore juste le design.
Il n'est pas de Namek, hein. Faut
le design de Ken qui est totalement.
Ouais, alors Ken, par contre, on ne sait pas ce qui s'est passé. Quand même.
Non, mais après,
il y a eu un souci.
Le plus réussi, c'est le Ryu barbu.
Je suis bien d'accord.
C'est le hot Ryu qui avait fait le tour de l'internet. Ça, c'est vraiment, c'est la grosse réussite de ce Street Fighter. Mais on va parler d'autre chose maintenant, Julien.
Bonjour.
Avant que nous passions à nos thèmes, tu as des chiffres à nous communiquer.
Oh, les chiffres, vous aimez les chiffres, les
amis. Oh oui.
Alors,
c'est le jackpot.
C'est carrément les sous, là, ça tombe. Ouais,
ça
oui,
tombe dans
vous allez faire des économies. C'est arrivé le 1er octobre au Japon. La baisse de prix de la PS4, elle avait été annoncée lors du Tokyo Game Show. Confirmée aux États-Unis après quelques jours là où on se demandait, il y avait Target qui annonçait $50.
Ils ont attendu que Phil Spencer leur dise, en fait.
Oui, c'est ça. Phil Spencer, donc le boss de Xbox, il disait oui, ça paraît logique, ils vont le faire, vous allez voir, etc. Bah, c'était plutôt bien vu. Donc c'est officiel au Japon, c'est officiel aux États-Unis. C'est ah non, c'est pas officiel en Europe.
En Europe, on sait rien.
Toujours pas. Alors, on se doute bien, j'ai appelé PlayStation France qui a dit, j'ai trouvé ça assez intéressant, ils ont dit on n'a rien à communiquer aujourd'hui. Au moment où bon, vous la voyez arriver là, Paris Games Week. Vous la voyez la scène là avec la belle annonce avec and now for Europe machin, bon bref, ce qui ferait quand même qu'on on devrait attendre encore une bonne vingtaine de jours, hein. En gros, n'achetez pas de PS4
voilà,
maintenant,
pas tout de suite, faites pas ça,
sauf si vous avez des offres incroyables. Il y en a pas mal, hein. On en a mis avec notre partenaire Fnac d'ailleurs, avec je crois PS4 1 Tera, FIFA 16 une deuxième manette pour 399. Bon là c'est pas si mal que ça quand même. Bon, enfin, sauf si vous prenez des offres comme ça, bah il est urgent d'attendre, je crois. Et on a vu qu'au Japon, les ventes avaient très sensiblement augmenté. Alors évidemment, c'est sûr, hein, il y a
sous
toujours un phénomène.
Bah
alors plus 1000, je sais pas combien de pourcents, là où toutes les autres machines ont baissé un peu, entre 15 et 20% de baisse, la semaine de la baisse de prix de la PS4. Après, c'est toujours assez logique.
Bah,
évidemment,
faut dire que
parce qu'avant, les gens
le
se retiennent.
Le prix là-bas, il est quand même... il défie toute concurrence, hein, par rapport à nous, ce qu'on a.
Avec la conversion,
Bah, avec la conversion, ça fait du 258 euros à peu près. Quand même, c'est
intéressant.
C'est plus qu'intéressant.
Ouais.
Ça donne envie d'aller là-bas.
Complètement.
D'ailleurs, j'y vais.
Et alors, imagine en occasion, parce que les occasions Jap en plus elles sont nickel. Ouais. On te la file la PS4.
Ouais, c'est un peu ça.
En tout cas, pour l'Europe, il faut vraiment se dire que c'est très bien parti, je pense, parce que Shuhei Yoshida a dit que pour la Paris Games Week, pour la conférence Sony, il fallait s'attendre au même type d'annonce que ce qu'il faisait à la Gamescom. Et quand on sait que les différentes baisses de prix de la PS3, par exemple, avaient été annoncées pendant des conférences Gamescom, ouais. Bah là ça laisse penser quand même que ça sent bon pour la PGW.
On la sent à 349.
Ouais, ça va être du 349
plus, hein. Voilà.
Peut-être pour le modèle 1 Tera, peut-être avec 4 manettes.
Ah, 1 Tera 349, c'est bien.
Et 27 jeux.
Avec PlayStation VR offert et un PlayStation.
I believe I could fly.
Non, je sais pas, mais c'est vrai qu'un 349 annoncé comme ça pour la fin d'année, ça va être pas mal. Et puis surtout que quand on voit que. En face, on aimerait bien aussi une petite. En face, dans les deux camps en face, hein. On aimerait bien aussi une petite baisse, c'est sûr.
Ah bah, aux États-Unis, la Xbox, elle est déjà moins chère. Hein.
Ça fait un moment,
pas
en plus,
mal de mois.
Ouais, début d'année, d'année officielle.
349 dollars, c'est là. C'était temporaire et puis ça s'est maintenu depuis quand même pas mal de mois. On remarquera quand même que la PS4 est sortie bien plus tard au Japon pour une fois que dans les autres pays, que c'est dans le premier pays dans lequel ça a baissé, c'est au Japon. C'est parce que la dynamique est quand même moins forte. L'endroit où ça marche le mieux, c'est en Europe. Bah, comme par hasard, c'est là où ils baisseront le prix. Le plus
en
tard,
dernier,
bah,
logique.
Ça paraît assez logique, effectivement. Je propose qu'on passe maintenant au premier thème de la semaine, à savoir le multijoueur en ligne qui est à la fête cette semaine. Et on va commencer avec Metal Gear Online, messieurs, puisque il est arrivé cette semaine. Vous avez évidemment sorti vos consoles. Vous avez mis.
Rami
sort que sur
vous
Snapchat.
Avez évidemment mis The Phantom Pain à l'intérieur de votre console. Vous avez téléchargé combien de gigas de téléchargement?
Il y a deux téléchargements. Il y en a un initial de 600 et quelques. Et après, tu télécharges vraiment le client, enfin le jeu, MGO, etc. 913
MB MO.
Donc 1 giga 5 en gros. Quoi.
Ouais,
c'est pas énorme.
Après, le contenu est pas énorme non plus.
Ah bah. Alors, non. Parlons du contenu. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de MGO?
Tout d'abord, t'as un hub principal qui te dit ce que t'as un peu à faire. Par exemple, les matchs, personnaliser son personnage, les statistiques, etc. Et en fait, on se retrouve avec trois modes de jeu. Bounty Hunter, qui consiste à team dismatch en fait, classique. On a du Clock on Digger, qui est plutôt cool dans le sens où t'as un mode où Ouais, arrêtez.
Moi je fais oui de la tête comme si j'avais compris.
Si vous êtes premium, vous avez la vidéo.
J'essaie de savoir ce que ça veut dire en français en fait.
Ah bah, j'ai pas cherché à le traduire en fait.
Clock on Digger.
Ouais, en fait, t'as un camp où en fait, qui a juste des pistolets tranquillisants.
Ouais.
Et qui doit aller récupérer des dossiers et les ramener dans un camp. Et en fait, t'as un autre camp qui est la défense, qui eux ont des armes létales.
Mais surtout, le truc, c'est que ceux qui doivent aller récupérer les dossiers, ils ont
le camouflage optique.
Ouais,
camouflage
optique. Mais il y a une subtilité. C'est que le camouflage optique, en fait, il est géré... Enfin, l'activation ou la désactivation du camouflage, il est géré unifié dans l'équipe. C'est-à-dire que si quelqu'un se fait voir... Tout le monde perd son camouflage instantanément pendant quelques secondes. Voilà. Alors, du coup, toi, t'es en train de faire ta méga infiltration, t'as un pote à l'autre bout de la map qui s'est fait voir, bim, t'es devant le cum et t'es visible pendant quelques instants. Mais c'est quand même, je trouve, le mode le plus intéressant.
C'est le mode le plus intéressant, mais il faut vraiment avoir des personnes avec qui jouer, à qui vraiment
bien
se coordonner, parce que sinon, ça devient très très dur et c'est un foutoir pas possible.
Ouais.
Tu te fais repérer alors que tout le monde est dispatché un peu n'importe comment dans la map. Donc du coup ça devient très vite compliqué. C'est pas le mode que j'apprécie le plus en fait.
Ouais.
Et
quel est le mode
donc c'est le troisième que tu apprécies le plus celui
bah non c'est le premier en fait c'est le le troisième lui consiste juste c'est juste du capture the flag en fait
d'accord
c'est pas enfin moi c'est ce que je reproche un petit peu au jeu qui reste joli nous ça a été plutôt stable etc il y a eu des petits problèmes de serveur mais franchement là à l'heure où on est en train de parler c'est plutôt ça marche bien c'est que avec un jeu d'infiltration comme Metal Gear, je trouve qu'il y avait vraiment l'opportunité de faire des modes vachement plus originaux, qui demandaient
parce
vraiment
que là, c'est
une très forte
essentiellement à chaque fois.
En tout cas, ça vire vite au deathmatch, tout le monde court dans tous les sens, tire dessus, boum boum.
Alors que c'est pas vraiment
c'est dommage,
ce
quoi.
À quoi se prête le plus le gameplay de Metal Gear.
Après, ça reste dans la même veine
5,
que les anciens MGO. Il y a pas eu, il y a jamais eu d'infiltration pure où les mecs se cachaient, etc.
C'est dommage. C'est vraiment dommage.
Mais je pense que c'est ça en fait, pour faire du Metal Gear en multi, il faudrait presque plus faire un MMO, je crois, avec un monde persistant, ouvert, etc. Plus que des parties comme ça, Team Deathmatch.
Il faut dire quand même qu'une partie.
Ça ne sent pas adapté à Metal Gear en fait.
Une partie de cache-cache en ligne, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus dynamique, hein, surtout si tu joues contre quelqu'un qui veut absolument se planquer.
Quand tu joues un FPS en ligne et que tu passes ta partie à chercher ton adversaire, en principe c'est super pénible.
Bah c'est pour
ça te saoule et t'as pas envie de jouer à ça. Donc après, avec le concept de Metal Gear, c'est un peu.
Après, pour ma part, quand je passe en mode multi avec Metal Gear, j'ai plus l'impression de jouer à Socom qu'à Metal Gear. Je cours, je déglingue tout le monde, etc.
Ouais.
Tu te raccroches
à la
vie. Comme quand on jouait en live, quoi.
Bien sûr, tout à fait. Voilà.
Mais moi, c'est ce qui me dérange un peu, c'est que tous les jeux multi, globalement, c'est quand même vraiment tu cours, tu kills, tu te fais tuer, tu respawn, tu recours, tu kills. Bon. Moi, c'est une mécanique et un rythme que je trouve un peu frénétique et un peu obsédant et qui fait que moi, c'est pas trop mon kiff. Hein. Je comprends très bien qu'il y ait plein de gens qui adorent, machin, enfin, je respecte infiniment, mais c'est pas mon style. Et je me dis, bah, avec un jeu comme Metal Gear qui veut faire du online, bah, a priori, je vais avoir un rythme un peu différent et je me rends compte que bah, pas tant que ça. Alors après, évidemment, ça dépend avec qui tu joues aussi, mais très vite, même toi, spontanément, bah, tu vas un peu vite et tout. Bon. Et alors, il y a quand même des trucs intéressants. Tu peux fultonner les gens, donc forcément, là, il faut aller au contact. Donc,
c'est très humiliant.
C'est très humiliant.
Ouais. Ah
ouais, c'est vrai.
Ouais, ouais, c'est la chose la plus humiliante possible.
J'aimerais bien me faire fultonner.
Mais c'est possible. Ouais. Mais bon, du coup, je trouve que. Enfin, je sais pas. Tu sens. Le jeu a été un peu retardé. Des informations que j'ai quand même, Kojima Productions Los Angeles, qui de nouveau, enfin ça s'appelle plus comme ça d'ailleurs, non plus, c'est en fait tout le monde s'est au fur et à mesure un peu barré hein, depuis des mois, depuis
c'est
qu'il
un
y a
peu de Phantom Studio.
Ah, bah, c'est un peu ça, ouais. Malheureusement ce studio a été créé et puis il est presque mort dans la foulée, c'est assez triste. Et du coup, une partie du jeu a été rapatriée à Tokyo pour le finir, etc. Bon, je me demande s'il n'y a pas d'autres modes et tout qui étaient prévus et qu'ils n'ont pas eu le temps
qu'ils
de mettre.
Ont sabré, ils ont sabré, comme ça peut arriver. Parce que chapitre du jeu.
Ça fait quand même que 3 modes.
C'est 3 modes et c'est très
beaucoup,
léger,
quoi.
Tu fais très vite le tour.
Ouais. Il n'y a pas 10 000 cartes. Alors après, les cartes, je les trouve bien pensées, elles sont cool.
Même le camp Omega a été retouché, etc. Donc du coup, c'est vraiment cool.
Enfin, c'est pas foutage de gueule, je trouve.
Non, pas du tout.
Mais pour moi, ça fait partie un peu de ces grands jeux solo qui se disent ouais, on va mettre un multi, et le multi, bon, bah, tu joues un peu, puis tu vas vite oublier, quoi.
Après, quand même, il y a une espèce d'héritage par rapport à Metal Gear Solid 3 et Metal Gear Solid 4 qui avait le même multi.
Bien sûr.
Donc, les fans sont-ils finalement déçus dans l'ensemble ?
Vous, dans les forums, n'hésitez pas, hein, dites-nous, est-ce que vous êtes en train de jouer à Metal Gear ? Est-ce que vraiment, si vous êtes fan de Metal Gear, est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que vous, après la période de découverte, etc., vous continuez, vous comptez continuer ? Ou bien, peut-être que vous n'êtes pas fan de la série Metal Gear, on va dire classique, mais là, vous trouvez que ça plutôt chouette ? Bah, dites-nous. Moi, je suis très contrasté. T'es mitigé.
Ouais.
C'est pas. Je pense pas y passer des heures et des heures, très honnêtement. Je pense que j'y passerai moins de temps que je n'ai passé sur le solo au final, quoi.
Metal Gear, pour moi, ça a toujours été davantage une expérience solo. J'avais même essayé, je crois que c'était sur PSP, c'était Portable Ops qui te permettait de jouer en ligne. Et c'est vrai que Metal Gear en ligne, moi, ça m'enthousiasme pas plus que ça.
Et Peace Walker qui permettait aussi de faire des missions à 4.
Ouais, bah, Peace
Walker, façon Monster Hunter un peu.
Bah voilà, ça, je trouvais ça plus intéressant en fait.
Ouais.
Un Metal Gear en
coopératif.
Coop, où tu peux, genre, les maps sont tellement grandes, en plus, tu lui donnes un objectif qui doit aller faire ça d'un coin de la map, l'autre il doit faire là, et si les choses dégénèrent, l'autre ils peuvent revenir en urgence pour essayer de te filer un coup de main. Je trouve que ça serait
une
plus intéressant.
Une espèce de Ocean Eleven.
Je voulais que je lui dise un truc.
Bah, dis-nous un truc.
C'était prévu.
D'accord. Ouais. Merci de nous avoir dégoûté.
Ça fait partie de beaucoup de choses qu'on fait. Ah, au revoir.
Bon. Eh bah très bien, mais on va passer à quelque chose d'un peu plus joyeux maintenant. Allez, musique, comme on dit. Non, on la refait, voilà. Je préfère.
C'est quoi, hein?
Bon.
Petite, petit truc, petite web série qui a un peu fonctionné.
Quelle classe.
Ça va, c'est sympa comme thème.
Non mais vite fait.
Jamais entendu.
C'est quand même la licence ultime, quoi.
Ah bah en tout cas, c'est
ça. T'entends la musique, t'es dans ta tête, c'est un espèce de séisme, quoi. Moi je.
Bah pour nous ça veut tout dire, évidemment. Star Wars, la grande série initiée par George Lucas, qui en jeu vidéo a pas toujours eu droit à des grands traitements, mais
quand même quelques-uns très bons. KOTOR,
c'était cool. Juste pour moi, pour pouvoir introduire le fait qu'il y avait un top sur les jeux Star Wars.
Bref, disons que c'est pas forcément la licence qui a été la plus malmenée.
Non, c'est pas la plus malmenée. Mais il y a eu Master of Terrascasi. Voilà, fallait qu'on en parle.
Ou Star Wars Kinect.
Voilà, il y a eu un moment où ça a merdé, donc il faut aussi le dire. Mais là, il y a Star Wars Battlefront qui est arrivé en bêta. Là, c'était la semaine dernière. Donc,
pour les premiers, ça va. Pour les autres, c'est fini.
Voilà. Malheureusement pour vous, c'est fini puisque c'était du.
Mais qu'est-ce que vous attendez du 8, premium, quoi, comme ça,
du 8 octobre au 12 octobre sur PC, PS4 et Xbox One. Ben, on a pu jouer à Star Wars Battlefront qui sortira en revanche le 19 novembre. Quand même, c'est vachement plus tard que la bêta. Donc, il va falloir ronger son frein pendant encore un mois. Puis encore une fois, ronger son frein après jusqu'au film. Merde, voilà. Merde, on veut du Star Wars maintenant.
Il y a des colères saines,
j'en ai marre.
Ça en fait partie.
Laissez-moi agiter mon sabre laser tranquillement. Bref, Star Wars Battlefront, vous avez pu y jouer à la rédac. Rami d'ailleurs nous avait partagé la méthode pour y jouer en avance.
J'ai bien cette phrase, c'est la pression que. Alors moi je viens d'arriver, bon, vous à la rédac.
Oui, parce que j'étais pas là, il faut le dire.
C'est vrai.
Oui, j'étais pas là.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, tu te rappelles.
Ah oui,
ouais. Ouais. Tu te rappelles.
Tes oreilles.
Voilà.
C'est vrai, c'est vrai.
Exactement.
Alors, ça y est, je m'en souviens.
Ouais, tu te souviens. Alors, Rami. Toi qui as.
Avec la musique.
Non, moi j'arrête de dormir.
Toi qui est un dingue de FPS.
Ouais.
Qui aime la performance.
Exactement, tout à fait. J'aime tuer des gens virtuellement.
Ouais, et donc t'avais déjà bien saigné Battlefield. Justement, première question. La crainte de tout le monde de que ce soit une skin de Battlefield, est-ce qu'elle est justifiée?
C'est ce que je pensais aussi. Et en fait, je suis aussi un grand fan des Battlefront, les anciens.
Mm-hmm.
Et je retrouve vraiment, vraiment l'essence même des Battlefront, les anciens.
Ouais.
Et j'ai.
Sorti sur PC, PS2 notamment.
PC, PS2, ouais. Et je retrouve vraiment vraiment tout cet univers. Il y a quelques mécaniques qui sont bien sûr empruntées à Battlefield.
Et surtout la technique.
Ouais, surtout putain, ouais, c'est super beau. Ouais.
C'est
l'ambiance générale, musicale, visuelle, ouais. Machin.
Ah bah, la reproduction
dedans,
des sons.
Là, t'es dedans phénoménal. Quand t'es sur Hot avec les AT&T, machin. Enfin, t'es dans Star Wars, quoi.
C'est une super ambiance dans le jeu. Et non, j'avais cette crainte, mais je l'ai plus en fait. C'est vraiment, ça s'éloigne vraiment de Battlefield, et c'est vraiment l'essence même de Battlefront, c'est-à-dire des grosses batailles, les AT-AT sur Hoth, etc. Le fait de pouvoir.
Alors les AT-AT, c'est les marcheurs à quatre pattes, les gigantesques.
Les gigantesques quadrupèdes.
Voilà. Exactement, ouais. Et non, c'est vraiment ce qui faisait l'essence même des anciens Battlefront.
Mm-hmm. Bah, c'est des batailles à grande échelle.
Exactement.
Surtout.
Ouais. Ouais.
Donc là, c'est du 20 contre 20 pour le mode marcheur.
Walker, ouais, après, marcheur ça peut être un peu fouillis dans le sens où.
Et pas très bien équilibré. Hein. C'est-à-dire que ce mode-là, quand même, sur Hot, globalement, et là, je crois que de l'avis unanime un peu des joueurs, si t'es du côté des rebelles, c'est super chaud. C'est-à-dire que globalement, c'est toujours, enfin, toujours non, mais très fréquemment, enfin, il y a une prime pour l'Empire. L'équilibrage n'est pas très bon.
L'Empire est quand même bien
c'est
plus avantagé
encore un peu.
Bien sûr, c'est l'importance et c'est l'intérêt d'une bêta.
Parce que quand tu joues avec l'Empire, c'est vrai que t'as les quadrupèdes, enfin, t'as les AT-AT, les AT-ST. Et t'as,
c'est les bipèdes.
T'as une puissance de feu qui est trop élevée, quoi.
Qui est vachement élevée, ouais. Et du coup,
parce que c'est le principe en fait, c'est que y a un assaut sur la base rebelle et qu'ils sont un peu à poil. On a vu le film.
D'un côté, dans Star Wars, c'est un peu ça aussi.
Ouais, mais ils ont le temps de se casser. C'est pour ça que c'est un échec selon Dark Vador.
Les rebelles sont quand même vachement moins équipés, ils sont moins nombreux et tout, donc c'est pas, pour le coup, c'est pas étonnant. Mais dans un jeu vidéo, ça peut frustrer.
Moi, ce que j'ai trouvé frustrant en essayant un petit peu. C'est que j'avais tendance à me faire flinguer dès que je respawnais. Parce que justement 20 contre 20, il y a énormément de gens que ce soit des mecs que ce soit des fantassins au sol ou bien des gars dans leur TIE Fighter peinard, je me faisais mes canarder en une seconde.
Moi vraiment, on a parlé de la partie visuelle, graphique et tout, je crois que là on est unanime. Moi sur le manette en main, j'ai eu une énorme débandade, quoi. Mmh. Pour être tout à fait honnête, je me suis emmerdé sec. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça mou. J'ai trouvé les points de respawn un peu chiants. Mmh. J'ai souffert un peu du même syndrome que toi. Alors après, moi, je suis évidemment. Hein,
c'est peut-être parce que t'aimes pas le multi.
Mais alors,
le
c'est pas
multi,
que j'aime pas le multi, mais je veux dire, ça me va pas me faire l'aimer plus. Boum, je meurs. J'ai trouvé que le pilotage, l'usage des véhicules, enfin des AT-AT, etc., que j'attendais à mort, était chiant. Enfin, vraiment, c'est. Bon, ok, puis tu restes qu'une minute dedans, boum, puis tu repars. Ouais. Tu sens pas vraiment les impacts. Bon, voilà. Donc moi, je trouve que pour l'instant, cette bêta, elle remplit totalement son œuvre pour te mettre la claque graphique que t'as envie, pour te dire putain, j'ai jamais été aussi bien dans un Star Wars de ma vie. Voilà. Je reviendrai pas sur l'histoire. Est-ce qu'il manque une campagne solo et tout. C'est leur choix. C'est un jeu multi. Mmh. Moi, je dis juste, ça va complètement diviser. Parce que encore, on l'a vu, hein, des gens l'ont découvert là qu'il y avait pas de solo. Il y a plein de gens qui pensaient qu'il y avait un solo, etc. Il y avait du multi, donc c'est évidemment pas le cas, mais EA va arriver l'année prochaine ou dans deux ans
avec le jeu de Visceral,
avec le jeu de Visceral, Ami Henning, etc. Mmh. Donc là il y aura du solo, bon c'est pas un problème, c'est, je veux dire c'est même pas un débat sur ce point là mais en termes de multi ça m'a pas
mais j'ai peur que le grand public soit
pas...
mais après ce truc c'est que
qui a envie justement d'un jeu de fans,
c'est ce qui faisait la force des anciens Battlefront, c'est à dire que c'est que des batailles en fait, des batailles Empire Rebelle,
mais tu les as trouvées vraiment super stimulantes.
Bah, dans les deux modes que propose la bêta, le premier mode drop zone à 8 contre 8, c'est, tu te fais chier quoi. Mmh. Et c'est seulement le mode sur hot qui est un peu plus intéressant, mais c'est vrai que tu respawn et tu ouais. joues 2 minutes et
t'avances,
tu meurs quoi.
Tu meurs, t'avances, tu cours, tu tires, tu meurs, t'avances,
ça
tu
c'est
cours,
comme
tu
dans
meurs.
Tous les FPS.
Bien sûr, bien sûr.
C'est, ouais, mais c'est, ouais.
c'est très frénétique. La fréquence de décès est un peu plus élevée là.
C'est super frénétique et t'as pas le temps de faire grand chose. Et
moi je pense qu'ils peuvent vraiment améliorer l'équilibrage, ouais. ça fait partie des enseignements que moi je tirer des enseignements que je tirerais de cette bêta.
Et Rami, j'ai une question parce que moi j'y ai pas joué, j'ai vu des vidéos évidemment. Le Luke Skywalker Dark Vador, ça se passe comment?
Oui,
c'est que tu les sélectionnes au début ou
non,
c'est
non, c'est non. Au fur et à mesure que tu fais du que tu progresses en fait, que tu fais du kill dans le truc?
Non, c'est des bonus.
Ça marche comment?
Alors moi j'ai pas pu les essayer parce que j'ai jamais trouvé le bonus. Mmh. On m'indiquait que c'était des bonus à retrouver dans la map parce qu'en fait t'as plein de bonus. Par exemple si tu veux prendre un TIE Fighter, tu dois récupérer un bonus
c'est
sur la map.
Carte ouais, bleue, c'est une carte bleue.
Par contre ça c'est très mal indiqué. Du
bah
coup,
ouais c'est un peu chelou ça aussi. Je trouve.
Tu tombes dessus par hasard.
Ouais, bah ouais.
C'est en ça. Fait et puis en plus je trouve que là c'est vraiment anti univers Star Wars.
Clairement.
C'est-à-dire que t'es vraiment un truc super crédible, vachement c'est cool et tout, les décors sont magnifiques et tout. Puis t'as des espèces de petits modules transparents bleus qui tournent à la Star Fox Adventure à l'ancienne quoi.
C'est des hologrammes, c'est très Star Wars.
Ouais, je sais pas. Et puis boum, tu te téléportes dans un AT-AT.
Mais et donc Dark Vador, en fait, c'est quelqu'un qui a trouvé un petit truc comme ça qui correspond à Dark Vador et il se transforme en Dark Vador sur l'instant.
Bah, un peu comme. Oui, après, moi j'ai pas pu malheureusement prendre Dark Vador parce que je l'ai jamais trouvé.
Ou Luke, ou.
Du coup, tu te transformes, ouais, normalement t'es censé.
Après, il y a un truc qui est bizarre. C'est que quand tu les tues, Dark Vador ou
il reste sur le
Luke,
champ de bataille.
Oui, il reste sur le champ de bataille.
Il s'agenouille et il reste sur le champ de bataille et puis au bout d'un moment, il disparaît. Ouais. C'est très bizarre.
Non, c'est bizarre. Ouais. Mais en tout cas, moi,
mais c'est classe. Ouais.
Bah, visuellement, j'ai pas mal regardé de vidéos et de gifs animés, etc. Et c'est
de gifs animés.
Le jeu est bien, ouais, en gif.
Non, mais moi j'ai pas eu le temps d'y jouer. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est super beau, quoi. C'est impressionnant et je me dis que ils ont tout intérêt. À l'époque de la sortie de Star Wars, du film, de le mettre en démo dans les magasins, etc. Mmh. Parce que je peux vous dire que là, ils vont en vendre des consoles avec ce truc-là.
Après, j'ai peur
ils vont vendre des jeux et ils vont vendre
les
des
gens
consoles.
Qui sont pas habitués au Battlefront ou qui veulent se plonger dans cet univers-là. Ça va être très compliqué hein, parce que c'est.
Ça fait
très orienté hardcore.
C'est pas très grand public. Hein,
c'est pas vraiment hardcore.
Ils regretteront peut-être leur achat. Mais rien que l'attirance visuelle, quand tu vois un AT-AT qui passe avec Dark Vador qui court en bas et tout, vu plus la qualité de la réalisation graphique, je pense que ça va attirer beaucoup de gens. Certains sont peut-être déçus une fois qu'ils allumeront leur console, mais avant ça, l'achat est fait.
Je suis sûr que le jeu n'est pas fini encore, on n'en sait rien.
Mais c'est marrant parce que moi je regardais un petit peu. Alors vous dites c'est vachement hardcore, alors je suis d'accord parce qu'on meurt assez souvent, machin. Bon après, on est peut-être débiles aussi. Hein. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que justement le gameplay est extrêmement simplifié.
Ah bon.
Vraiment très très simplifié et que à force de vouloir le simplifier justement apparemment hein, je lisais ces retours là ils perdent aussi un peu les hardcore du multi FPS parce que la nervosité est pas vraiment là parce que tu strafes non-stop machin tu fais tes sauts et tout enfin j'ai l'impression que quand tu creuses un peu personne n'est vraiment fondamentalement à fond, hormis bon, la mise au point visuelle, où là, tout le monde est unanime, quoi. Et ouais. Je vous parle pas de la version PC ultra que Poufi
vous a fait découvrir en photo, vous a fait miroiter dans les yeux là.
C'est pas très beau ce que vous faites, monsieur.
Bah, je pense que ça va dépendre, ouais. Ça va dépendre de ton niveau d'amour pour la licence Star Wars. Je pense que c'est ça qui va être pas mal déterminant. Les fans de FPS, hardcore, les plus pointilleux, ils joueront peut-être pas.
FPS
ils
et TPS pas, parce qu'on peut y jouer à la troisième personne.
Moi, j'ai pas peur du tout pour son succès commercial.
Ah, moi non plus.
Mais j'ai plus peur pour un truc un peu à la Titanfall et compagnie, c'est-à-dire ça fait puis ça se déballonne un peu, quoi.
Ouais, mais il a un avantage par rapport à Titanfall, c'est qu'il est multi. Enfin, deux avantages. D'un, c'est qu'il est multiplateforme. Ouais. Et deux, c'est que c'est Star Wars.
Ouais, et puis bon, après Noël, ça va être compliqué de faire lâcher le jeu aux gens.
Je pense après, il faudra aussi voir les différents modes de jeu que proposera le jeu final, parce qu'il y a pléthore de modes de jeu. Et du coup,
faut se rappeler aussi que là, la bêta, ça reste une bêta avec une.
Bien sûr.
Presque comme une démo finalement, ouais. Avec que certains modes de jeu accessibles.
Ça ne présage. Ça donne un avis, enfin un préavis, mais ils peuvent évidemment, et je pense que c'est à ça que sert une bêta, c'est de recueillir le maximum d'informations. Pour pouvoir améliorer des choses. Donc faisons confiance à DICE pour nous fignoler ça et faire en sorte que le 19 novembre, notre avis soit un peu inversé, en tout cas.
Parce qu'on
n'a
pas fait de bataille dans les vaisseaux encore avec la bêta. Et ça, je me rappelle que Mathieu à la Gamescom l'a essayé, avait trouvé ça plutôt sympa. Cette fois, ça sera du 10 contre 10 avec 10 bots de chaque côté, si je ne m'abuse. Et ça pourrait être bien aussi. Parce que bon, c'est sympa d'aller au sol et de se mettre des coups de blaster, mais franchement, moi si je peux être pilote de TIE Fighter ou de X-Wing, je signe tout de suite.
Ouais, on a tous envie d'y jouer quoi en fait.
Ouais.
Vraiment.
Ouais, à fond. Bon. En tout cas,
bon, Epona,
on va le surveiller.
Qui nous quitte, voilà.
C'est sorti le 19, ça sort le 19 novembre.
Bonjour,
ami. Bonjour.
Sur PS4, PC, Xbox One, Star Wars Battlefront. N'hésitez pas à nous dire, vous aussi, d'ailleurs, dans les commentaires. De cette news qui est jointe à ce podcast, qui lui-même est joint à gameblog.fr,
que vous retrouvez sur une lettre qui vous sera envoyée à partir du 7 novembre.
Exactement, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette bêta. Ça nous intéresse de toute façon.
Ce qui était intéressant là, j'ai quelque chose à vous dire justement en soulignant que le jeu allait diviser. J'ai envie de dire, je me trompe pas, puisque même dans les commentaires, les gens étaient extrêmement clivés entre ceux qui signifiaient genre ah bon, c'est que du multi, alors pas d'achat, etc. Les autres qui leur faisaient mais si. Enfin bon, ça va vraiment faire parler, c'est une force pour le jeu, parce que ça lui fait aussi de la communication. Mais en tout cas, c'est pas aussi gagné que les premières fois où on l'a vu, où tout le monde a fait oh, ok, c'est bon. C'est fini.
Quand on l'a vu, après, je comprends pas que ça puisse diviser autant. Enfin, quand tu connais un petit peu la série Battlefront, tu sais d'avance
pas
qu'il y a...
ça.
Ouais. Ça commence par est-ce que tu crois que les gens lisent les news?
Oui, c'est vrai.
S'ils lisaient toutes les news, les contenus, les articles, c'est-à-dire les lettres qui se suivent et qui forment des mots puis des phrases, parfois les commentaires seraient autres.
Est-ce que tu crois que les geeks qui étaient devant le film en 77 quand il est sorti, qui étaient devant le ciné en train d'attendre, ils vont se poser des questions en le voyant là comme ça?
Je pense que là, Rami, les gens voient pas le mot, ils voient même pas le mot Battlefront sur le truc. Ils voient Star Wars, FPS, joli graphisme. Et après, c'est là qu'ils vont peut-être, s'ils se renseignent un peu, faire leur rapprochement. Mais
c'est quand même
d'entrée
le
jeu,
retour
c'est
d'une
pas
licence qui était un peu perdue depuis qu'elle était arrêtée avec le 2 à une époque
lointaine. Battlefront, oui, ça a quasiment plus de 10 ans.
Oui, ça a plus de 10 ans. Ouais.
Mais déjà, je pense que si on faisait un sondage là pour savoir quelle est la proportion des gens qui découvrent que le jeu est multi,
bien sûr,
c'est énorme. C'est-à-dire que déjà, rien que ça, déjà, c'était pas bien passé. Enfin, le message.
Et ouais. Enfin bon. Maintenant, il est temps de parler d'un autre jeu, une annonce de cette semaine, le fameux Far Cry Primal, qui a été annoncé un petit peu par surprise, avec une petite vidéo en boucle.
C'était
pas en boucle.
Non, c'était un dézoom. C'est-à-dire que ça commençait très proche dans une caverne sur une peinture rupestre. Et puis
ça dézoomait, j'avais pas fait
ça. Extrêmement lentement, vraiment très lentement, tellement lentement que IGN Turquie s'est dit bon, on balance la sauce, ça va, on s'en rend. hop, et puis tu découvrais de plus en plus que c'était des batailles et tout.
Et donc au final, c'est un Far Cry donc que Ubi a annoncé, mais pas un Far Cry classique, c'est-à-dire qu'on va pas se retrouver dans une contrée tibétaine ou sur une île paradisiaque avec un hélicoptère ou je ne sais quoi, un deltaplane à foncer à coup de à coup d'éléphant sur des bases ennemies. Cette fois, il y aura peut-être l'ancêtre de l'éléphant, le mammouth.
Le mammouth.
Voilà. Et donc, ça se passe pendant la préhistoire. Et moi, en tout cas, le truc que ça m'évoque, c'est un autre jeu de chez quelqu'un qui travaille pour Ubi, mais qui ne fait pas ce jeu-là chez Ubi. Ça me fait penser un peu à Wild de Michel Ancel, mais un tout petit peu. Et je me demande, je sais pas, Ubi, ils se sont dit, tiens, on va peut-être le court-circuiter un peu, parce que monde
pas.
Ouvert,
c'est tellement pas le même style de jeu.
Ah bah, c'est pas le même style, mais...
Après,
monde
c'est
ouvert,
vrai.
Préhistoire.
Alors, c'est amusant de voir à quel point les tendances, ouais. comme ça, mais quel que soit le milieu, hein, dans la mode, etc., dans le jeu vidéo, il y a quelques années, tout le monde sortait des jeux avec des arcs. Ouais. Mais ils sont tous arrivés dans l'espace de 6 mois. Quoi. En 6 ouais. mois, t'avais...
Crisis, Tomb Raider, etc.
Last of Us, machin. Il y avait tous des arcs, c'était le nouveau truc. Alors tu te dis, et machin. Bah, c'est sûr que tous ces gens-là discutent ensemble, se côtoient, doivent ouais. parler technologie et machin. Est-ce que c'est ça qui fait des décisions et qu'il y en a un qui s'est dit, on va le griller, je sais pas quoi. Moi, j'ai envie de penser que non. Moi, je suis pas si sûr... Enfin, je suis pas si surpris genre de l'annonce. Moi, je trouve ça plutôt cool d'avoir un autre temps de communication, qu'il soit pas l'E3, qu'il soit pas la Paris Games Week, qu'il soit machin, qui est comme ça.
Mais c'est un peu étrange parce que d'habitude, ils entretiennent ouais. des mois et des mois à l'avance leur jeu chez Ubi. Ouais. Que ce
oui,
soit pour Assassin's Creed ou les Far Cry.
Mais
hein,
ils veulent peut-être aussi tenter un peu autre chose. C'est clairement pas leur plus gros jeu de ouf. C'est pas le gros Far Cry, tu vois, c'est pas un canonique, ouais, ouais. c'est pas c'est Far Cry ouais. 5, etc.
Ils placent peut-être moins de choses dessus que.
C'est peut-être même, si je pousse le truc, mais je n'y crois
un
pas forcément,
à
voilà,
Dragon,
une espèce
ouais.
de gros add-on plus. Moi, je dirais plus, éditorialement parlant, je dirais plus que moi, je suis un petit peu déçu dans le sens où, bah, putain, quitte à faire cette. Période là ou autre, bah tu t'en fous de l'histoire quoi. Enfin je veux dire, c'est de fait pas réaliste.
Tu t'en fous
de
la
science.
Tu fous
des dinosaures
quoi.
Ouais. Allez, tu nous fous des T-Rex, des
oh bah,
Triceratops,
y en aura sûrement.
Ah bah non. Oh bah,
il garde peut-être ça peut-être, pour un autre ouais. Evil.
Bah la jaquette, c'est un mammouth. Ouais. Je veux dire, ouais. Si tu étais à cette période, si t'as un T-Rex, ta jaquette, tu fous un putain de T-Rex quoi. Enfin,
ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve qu'ils vont pas au bout du truc là. Je me souviens, il y a quelques années, ils avaient fait un sondage, ils avaient diffusé un sondage où ils demandaient aux gens ce qu'ils attendaient de la licence Far Cry. Et justement, dans les choix, si je me souviens bien, il y avait les dinosaures, enfin un truc ouais. se passant avec des dinosaures. Et les
bah,
gens
ils ont eu dans
rêve...
le Dragon, mais c'est des dinosaures.
Ouais,
mais
c'est pas pareil. Les gens en rêvent depuis longtemps. Et les dinosaures là, avec Jurassic World, on a bien vu que ça cartonne. Toujours autant.
Mais oui.
C'est un sujet qui plaît toujours autant aux gens. Et non, t'as juste des mammouths et des tigres aux dents de sabre. Enfin, c'est.
Et puis.
Il manque Scrat, j'ai remarqué par rapport à l'âge de glace. C'est tout ce qui manque.
Et il manque des noisettes aussi.
Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, et pareil, hein, éditorialement parlant, même si légitimement, hein, il y a des ponts, des passerelles entre un reveal à la Wild et celui de Far Cry Primal. On sent vraiment que c'est un Far Cry, mais avec d'autres styles de créatures. Donc, alors que Wild, je sais pas, il semble avoir une âme un peu différente. On a confiance en Michel Ancel.
Ce
pour
sera pas
quelque
même
chose
de
différent.
Ce sera de la survie pour.
Dans Wild, on voit qu'il y a plusieurs personnages différents qui probablement formeront une petite équipe. Ça a l'air un peu plus poétique. Là, on sent que bah, ça va être un jeu.
Ça va être un Far Cry où tu vas aller conquérir
des zones dans lesquelles il y aura des mammouths. Dans lesquelles tu feras du crafting.
Les camps des autres tribus, sûrement.
Voilà. Bah, surtout qu'il y a l'air d'avoir une tribu indigène.
Oui, il y a des tribus. Il y a des tribus ennemies dans le truc.
Ça va être ça. Ça va être encore un petit cocktail de d'action, d'infiltration. Forcément, on fait pas de bruit quand on a une lance ou un arc.
C'est ça.
Ça va beaucoup
mais
mieux.
Tu sais, moi, je pense qu'on peut pas il faut être un peu cohérent. On reproche souvent, et là pas qu'à Ubi, des annonces de jeux avec suivi de 150 millions de trailers pendant 5 ans, et puis on attend, puis on va dire, ce jeu, il sortira jamais, hein, machin. Là, bon, moi, je trouve ça plus cool. Bah, là, il est annoncé là, on va avoir un peu de trailer, très bien, et puis il va arriver vite en preview, enfin bon, si on est invité. et puis après le test, etc. Mais bon, bah, très bien, tant mieux. Enfin, t'inquiète pas que Far Cry 5
si on fait un comparo, on compare juste l'annonce de Fallout 4 et sa date de sortie. Tu te dis, il n'y a pas beaucoup de temps entre les deux, c'est bizarre. Mais tu n'as aucune crainte. Far Cry, entre son annonce là et sa date de sortie, 23 février 2016, est-ce que tu te dis la même chose que pour Fallout ?
Bah, c'est pas la faute du jeu. Ouais. C'est-à-dire que ça présage pas de la qualité du jeu. C'est le problème après avec Ubisoft qui a relativement déçu sur certains de ses gros titres ces dernières années. Donc effectivement, ça génère une petite méfiance, on va dire. Après, moi je crois que les gens oublient relativement vite. Si les prochains jeux à venir sont bons, si le Assassin's Creed Syndicate est bon, si ce Far Cry est bon, etc. Bon, bah, tout ça rentrera dans l'ordre. Après, il faut qu'il soit bon, hein, évidemment. Mais oui, enfin... Je ne m'attends pas, mais là je me trompe peut-être, c'est même pas un procès d'intention, hein, c'est, je pense pas que ce sera le plus grand Far Cry de tous les temps, si tu veux. Mais après, l'univers est quand même plutôt cool, et finalement, assez peu dépeint dans le jeu vidéo aujourd'hui. Peut-être que dans 6 mois, ça changera avec les Wild et compagnie.
Hein. En plus, on ne sait pas depuis combien de temps ils bossent dessus.
Ouais, mais moi, c'est des véhicules, je me pose des questions parce que ça fait partie des choses importantes à chaque fois dans tous les Far Cry. À part les mammouths, je vois pas ce que.
Tu vas peut-être chevaucher. On sait qu'il y aura des tigres à dents de sabre, etc. Je sais pas, tu vas peut-être chevaucher des antilopes, des trucs. Enfin, on sait pas.
Ça pourrait être sympa, ça. Petite antilope. Bon. Bref.
On verra.
Ouais, on verra. Toujours est-il que si vous avez regardé le trailer, vous aurez noté un truc à l'oreille, à savoir que le personnage principal qui s'appelle Takar, bon, ok, Takar donc est doublé par le même acteur que Adam Jensen dans Deus Ex.
Connais pas.
Eh ben ouais, mais c'est pourtant lui, Elias Toufexis, ouais. Qui l'a annoncé d'ailleurs sur Twitter que il doublait aussi.
Ah ouais.
Ouais.
Et on n'a pas fait la news.
Et c'est le truc qui est assez particulier, c'est que les deux jeux sortent le 23 février 2016. Il va falloir choisir.
Dites-moi pas que c'est pas vrai.
Et si.
Et, ils sont développés tous les deux au Canada.
Et si je ne m'abuse, ça fait donc un jeu Ubisoft qui sort en même temps qu'un jeu Square Enix. Ouais. Et c'est pas la première fois, puisque Ubisoft a décalé Rainbow Six Siege pour le faire sortir le même jour que Just Cause 3.
Il se mène une guerre acharnée.
Je sais pas.
Si je pouvais, je ferais un triangle Illuminati,
c'est amusant. C'est amusant.
Ouais, c'est amusant. Et justement, Deus Ex, mon cher Romain, ben on va pouvoir en parler parce que t'es allé à Montréal pour y jouer.
J'ai été à Montréal dans les bureaux de Deidos Montréal, justement. Ouais. Et d'emblée, il y a un truc qui m'a vachement marqué quand on nous a permis d'essayer le jeu, c'est qu'on venait souvent nous demander, bon, pas pendant qu'on jouait, mais après, diverses personnes venaient nous demander ce qu'on en pensait, nos retours, et c'était vachement insistant.
Ouais.
En principe,
c'était déjà le cas pour le premier, je te rassure.
Genre, qu'est-ce que t'en penses, putain ? Non, mais le premier, pas de manière énervée, mais on veut vraiment avoir vos retours. Ouais. Et le premier,
c'était
plein de
questions.
Je me
rappelle quand j'avais fait une session de 3 heures à peu près sur Deus Ex Human Revolution, ils étaient vraiment, mais tu les sentais fébriles en fait.
Ouais, ils étaient pas bien.
Tu te disais, non, si c'était bien, mais
ouais.
Parce qu'ils quand même, ils savaient pas
mal. C'est pas
Zoom. Dis-nous tout.
C'est juste que parler.
Ils étaient vraiment curieux de savoir ce qu'on ressentait. Et donc moi, ça me paraît.
Bah là, d'autant plus que c'était la première fois que des gens hors studio pouvaient mettre la main sur le jeu. D'ailleurs, petite parenthèse, quand ils nous ont fait faire le tour du studio, ils nous ont montré la zone de Q&A, tu sais, de test de jeu.
Ouais. Ils ont mis des placardisé le truc, non, c'est pas ça?
Non, il y a une zone qui était placardisée comme tu dis, mais sur laquelle
placardé.
Ils bossaient un truc
placardé.
On n'avait pas le droit de voir, mais la zone de Q&A, ce qui est assez drôle, c'est qu'ils testent tous les jeux de Square Enix à cet endroit-là. Ce qui fait qu'il y avait un mec qui était en train de jouer à Just Cause 3, il y avait une autre qui était en train de jouer
à
Tomb Raider. Ouais. Et donc ils font du Q&A pour tous les jeux Square Enix chez Eidos Montréal directement. Mais
d'accord.
Après, effectivement, ils travaillaient sur un projet secret qu'on n'a pas pu voir. Même moi, j'ai essayé de la jouer Snake, ramper sur le sol, monter dans les conduites d'aération et tout. Ça a pas marché. Bah, on n'en sait rien.
Ouais, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que tu as joué à Deus Ex, Mankind Divided, et que tu as.
Alors, bah, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que c'est un peu comme Metal Gear, justement, je parle de Snake. Grosse liberté d'action.
Ouais.
Et ça, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Le fait de. Bah, soit tu prends toutes tes armes létales, tu fonces tête baissée et tu déglingues tout. Ou alors, t'essayes de contourner, d'aller dans la petite ruelle, de grimper sur le toit, de désactiver la caméra de sécurité, d'ouvrir une grille, de passer, etc. Et ça, c'est dans les deux maps que j'ai pu voir. C'était le cas à chaque fois.
D'accord.
Et ils nous promettent vraiment qu'on puisse. Faire de plein de manières différentes une même map.
Ouais.
Alors après, bien évidemment, il y a certaines stratégies qui fonctionneront pas partout, mais on a quand même une grosse liberté, et ça j'aime bien, et je l'ai vraiment testé, donc je peux dire que ça fonctionne. Il y a une fois où je me suis comporté comme un bourrin fini, et une autre fois où j'ai été plus discret, et une autre fois où j'ai fait mi-bourrin, mi-infiltration, c'est-à-dire où j'allais près des ennemis, mais je les endormais, je les tuais pas. Enfin, t'as vraiment plein de manières de jouer comme ça. Et
tu peux développer tes aptitudes en piratage aussi.
En plus, et maintenant t'as le piratage, t'as le piratage à distance, etc. Mmh. T'as tout un système d'augmentation, et là encore, tu choisis les augmentations que tu donnes à ton personnage en fonction de tes goûts. Mmh. Par exemple, moi, dans BioShock, j'étais du genre à plus utiliser les armes classiques et pas trop utiliser les plasmides. Bah là, d'accord, c'est pareil, tu peux augmenter tes capacités, tes compétences de résistance, etc. si tu veux jouer comme un tank, ou à contrario, plus développer ton efficacité en piratage, mmh, si tu veux.
Ouais,
être...
t'as cette espèce de... Moi, je sais qu'il y a l'espèce de bouclier. Qui miroite
en noir là,
qui est magnifique, le rendu est vraiment superbe. Ça fait partie des nouveaux trucs, je crois, de cette version.
Oui.
Et l'aspect social, justement, qui était aussi développé dans le premier épisode, où tu pouvais juste discuter avec quelqu'un pour faire évoluer l'aventure.
Et bah là,
c'est quelque chose que vous avez pu essayer.
Là, c'était la déception en fait, parce que c'était totalement absent du jeu. Et ça veut pas dire. Ça veut pas dire attention que ça ne sera pas dans le jeu final. C'est juste que comme ils voulaient pas qu'on spoil
l'histoire,
les gens en découvrant l'histoire, les choix, les embranchements, etc. Et ben ils ont retiré. En fait, on avait deux maps, une à Dubaï qui elle était scénarisée mais sans embranchement. Donc là, on rencontrait un peu l'équipe d'Adam Jensen, la nouvelle société pour qui il travaille, etc. Et de nouveaux ennemis qu'on pouvait découvrir à la fin du truc. Mais c'est tout. Dans la deuxième map sur Prague, c'était va d'un point A un point B, traverse la map, fais comme tu veux pour le faire, mais aucun embranchement, aucun dialogue, rien. Donc tout ce qui est social, comme ils le disent, ouais, social, j'ai pas vu les aspects sociaux.
C'est très raciste ce que tu fais, tu sais.
Ah oui, il y en a qui sont québécois, c'est
ouais,
raciste.
C'est raciste. Ouais.
Mais tout est raciste.
Oui, enfin, tout est raciste, absolument.
Je dis, ça continue comme ça, j'ai même plus. Bah tiens, quand tu mets Carles Whisper, quand je parle de ma famille Picard, bah,
c'est raciste.
C'est raciste,
absolument.
C'est raciste,
mais oui,
aussi.
Mais je sais, je suis au courant. Mais moi, je fais que la remarque, c'est tout. Hein. Je te dis pas c'est mal ou c'est bien, je te dis juste que c'est raciste.
Et bien, voilà. Bah
question,
voilà.
Tu y as joué sur quoi? PC, console?
Alors, et là encore, c'était particulier. J'y ai joué sur PC, mais ils nous ont dit tout de suite, la version à laquelle vous jouez, c'est la version console.
Mais laquelle?
Sur PC, PS4. Et ça, c'est une question.
La manette.
C'est une manette PS4. Okay. Mais c'est une question que j'ai posée. J'ai dit, est-ce qu'il y aura des différences entre la version PS4, Xbox One, machin? Bien évidemment, ils n'ont pas voulu rentrer dans les détails. Oh, il y aura peut-être des trucs minimes. Oui. On sait pas. Par
alors,
contre, c'est... la version PC sera
parce
bien
que
au-dessus.
Moi, le 3, j'avais eu l'occasion de voir la version PC. Je l'avais été quand même vraiment extrêmement impressionné.
Oui, tu avais pris une claque du futur.
C'était très, très beau. Au-delà même de l'esthétique. Hein. Et là.
J'ai plus été impressionné par le niveau de Prague parce que c'était de nuit, il y avait de la pluie, ça se reflétait sur le sol, etc. Il y avait des néons. J'ai beaucoup aimé le niveau de Prague. Le niveau de Dubaï, hein, un petit peu moins, mais c'est joli. Mais je pense que, comme toujours maintenant, si vous voulez vraiment avoir la claque graphique avec des Ousex, il faudra jouer à la version PC. Quoi. En gros, c'est comme, ça, c'est comme
Race,
ça que ça s'annonce. Ouais. Master Race,
absolument.
C'est donc du racisme,
absolument.
Que tu fais de la discrimination.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas moi qui ai inventé l'expression. Hein.
Montréal, ouais. Pays de race master.
Ouais.
Voilà.
Non, mais le PC, c'est comme ça. Et donc,
ça s'annonce quand même plutôt bien.
Oui, voilà,
ouais. J'ai passé un bon moment. Maintenant, la seule petite frustration, c'est de ne pas avoir pu découvrir l'histoire. Moi, j'adore les jeux
est-ce qu'on le revoit,
qui t'offrent des choix.
On a pris un rendez-vous, la suite, machin.
Ah, non, ils n'ont pas parlé.
Ils seront à la Paris Games Week.
Eh ben, je ne sais pas. Bah, ils me l'ont pas dit en tout cas. Ils n'ont pas dit rendez-vous.
Bah, intérêt,
pas dit rendez-vous à la Paris Games Week. Mais ça se pourrait. Par contre, il y a un truc que j'ai noté aussi, c'est que il y a tellement de possibilités dans les augmentations, etc., que l'interface n'est pas encore très claire. Comment attribuer les augmentations sur les raccourcis manettes, etc. Les systèmes de piratage, ils te demandent de faire des petites manipulations qui sont pas forcément toujours très intuitives. Ça a encore besoin d'être
revu.
Et des
boss, est-ce que t'as pu affronter des boss?
Aucun boss. Il nous avait bien prévenu au début, il nous avait dit l'équilibrage du jeu est pas fait, il y a plein de trucs qui n'ont pas été les impacts et tout sont pas encore réglés, parce qu'à un moment j'ai balancé une grenade sur un robot et ça l'a propulsé en l'air et ensuite il marchait dans le vide au-dessus de moi. Mais ça, tu peux pas leur en tenir rigueur parce que c'est une version qui est encore à des mois de sa sortie. Et il nous avait prévenu d'abord, il nous a dit on vous prévient, il y a encore plein de bugs.
C'était qui vous prévenait justement?
C'est Jean-François Dugas qui a fait la petite présentation avant le jeu, et ensuite il nous mettait dans une salle et là on était livré à nous-mêmes.
D'accord.
Avec des gardes qui faisaient des allers-retours derrière nous pour regarder ce qu'on faisait. Voilà.
Il faut que tu n'aies pas sorti ton téléphone pour enregistrer et appeler IGN Turquie. écoute, 23 février 2016,
oui.
On a, en tout cas moi j'ai très hâte d'y jouer et je pense qu'on aura l'occasion d'y retoucher dans pas très très longtemps. Ah, ce Deus Ex Mankind.
Je pense qu'on le reverra avant sa sortie. Oui, ça me semble,
bon, bah,
ça me semble quasiment garanti.
Le premier était tellement cool. Puis ça va quand même être les 15 ans de Deus Ex. Bah, c'est les 15 ans de Deus Ex cette année en fait.
Et quand tu parles avec les développeurs, tu sens qu'ils se donnent vraiment du mal. Ils prennent pas le truc à la légère. C'est vraiment quelque chose d'important. Avant de commencer le développement de celui-là, ils se sont posé des questions. Ils ont pris du recul par rapport au premier jeu, etc. En plus, ils pensent au lien avec le Deus Ex original.
Ouais.
Progressivement, l'histoire.
Ce qu'ils voient dans leur direction artistique, qui est beaucoup plus froide que dans le premier.
Ouais, et l'histoire. Petit à petit se rapproche de celle du premier Deus Ex et c'est vraiment tu sens que c'est pas une simple suite pour faire une suite et faire de l'oseille. Ils y pensent vraiment et ils réfléchissent vraiment à ce qu'ils font et donc ça c'est plutôt encourageant pour le coup.
Bon. Et ben, très bien, maintenant on va passer à la petite surprise que je ne vous ai pas annoncée dans le sommaire, à savoir la sortie ce 13 octobre. Et là vous me regardez tous genre
mais qu'est-ce que c'est,
de quoi c'est écrit sur les papiers normalement c'est logique, vous l'avez.
Ah oui,
mais oui, parce que c'est le 13 octobre sort quand même la première extension d'un des jeux de l'année, The Witcher 3 Hearts of Stone, comme il s'appelle. Et bien The Witcher 3 Hearts of Stone, j'ai envie de vous dire, est-ce que avant d'y jouer, je m'imaginais que ça allait être l'extension de rêve. Oui. Et est-ce qu'à la fin, c'est ce que j'ai eu ? Non.
Merde.
Oh. Et ouais, j'étais un petit peu déçu en fait de ce que j'attendais. Par rapport à ce que j'attendais vraiment, j'avais des attentes très élevées.
Rembobinez de quelques secondes et concentrez-vous sur la réaction de Rami.
Ouais, qu'est-ce qu'il a fait ?
Je pense que l'Oscar n'est pas loin.
Quoi. Il a passé un moment très privilégié.
Là, vous avez ceux qui ont les premiums qui peuvent regarder le podcast en vidéo. Vous venez d'avoir un moment privilégié avec Rami. Je vous dis ça.
Mais ouais. Pourquoi j'attendais cette extension ? Attendez.
Il nous a fait un non.
Après, c'est pas une mauvaise extension. N'exagérons rien, parce qu'il y a quand même on reste quand
la
même
note
dans
de Gameblog,
elle est de
3,5,
donc c'est bon,
c'est bien
quand même.
Oui, mais quand t'as été aussi haut avec le jeu
ce serait l'équivalent d'un 7/10.
Ouais, mais moi je pense que ça enfin ils auraient pu faire encore mieux vraiment, parce qu'en fait autant en termes d'histoire, de scénar, de perso, c'est-à-dire des choses qui étaient déjà acquises pratiquement avec The Witcher 3 Wild Hunt, bah il y a pas de surprise quoi, c'est génial, c'est super bien fait, mais
c'est des nouveaux décors, c'est un nouvel environnement.
C'est pas trop des paysans en fait. Ah. C'est un peu ça.
C'est dans les mêmes décors, une autre histoire.
Alors, en fait, c'est pas vrai exactement non plus les mêmes décors, puisque ça étend un peu la carte de la vallée de Velen.
Chevreuse.
Ça se passe vers Velen.
Ouais, et c'est le nord-est de la vallée, là où on disait attention, il y a les dragons, n'avancez pas plus. Bah voilà, là il y a des nouveaux villages et tout. Et ça nous ouvre quelques quêtes, effectivement, des contrats supplémentaires, des nouveaux monstres à abattre, etc. Mais on n'a pas de sentiment de progresser, en fait, pendant le jeu.
T'es chafouin, là. On sent que
Enfin, tu vois, il n'y a pas de... J'avais déjà mon équipement de ma partie de The Witcher 3 quand j'ai fini le jeu. Donc après les DLC, les 16 DLC qui sont parus, donc j'avais tout le matos de
les 16 DLC, ouais. Les 422 patchs,
parce que on pouvait récupérer le set d'armure et les armes de l'école du loup, donc celle de Geralt évidemment, et j'ai tout, j'arrive dans cette nouvelle aventure qui est à part de la trame principale, et je récupère rien de mieux quoi, je récupère pas
pas du loot.
Franchement non, niveau loot c'était pas bon du tout.
Là, c'est peut-être pas un DLC fait pour les gens qui ont retourné tout le contenu comme toi tu l'as fait. Terminer le jeu et attendre et faire ce truc là juste
après. D'avoir level 30 pour pouvoir
il faut être minimum level 30. Minimum, ouais, mais j'étais déjà 35 quand j'y suis arrivé, mais en fait je sais pas,
toi, t'es vraiment trop balèze aussi,
non mais... une extension j'imaginais plus que ça allait étendre, enfin continuer aussi bien en termes d'histoire qu'en termes de jeu. Le problème c'est que l'histoire elle est là, elle est canon, il n'y a pas de problème, mais en termes de jeu je suis resté un peu sur ma faim. Il y a ce nouveau système qui est introduit d'enchantement des armes et des armures par mots runiques et glyphiques. Bon, alors, c'est très spécifique hein, mais bref, et donc ça ne se fait que chez un marchand auquel il va falloir donner beaucoup d'argent pour pouvoir justement associer ces mots qui vont donner des bonus comme par exemple le fait de pouvoir conférer à son armure le pouvoir de
crâne ancestral.
Non, de rejeter toutes les flèches qui sont tirées. Bon, c'est un bon petit pouvoir, mais après tu peux le faire en te mettant en garde avec un des talents. Si t'as déjà utilisé tous les talents, si t'as déjà maîtrisé tous les talents, l'alchimie, le combat, c'est un truc qui ne te servira pas à grand chose à part claquer ton argent. Quoi.
On te la fait pas.
Ouais,
franchement, non, ils ont essayé de te la faire. Essaye notre jeu.
Non, mais c'était c'est une idée, mais malheureusement, je trouve que les bonus qui sont proposés sont peut-être pas assez gratifiants par rapport à l'investissement qu'on peut y mettre, et surtout qu'il faut toujours se rendre à un seul enchanteur qui est toujours au même endroit.
En termes de quête principale, t'as tenu en haleine combien de
Une dizaine d'heures à peu près. Ouais. Une bonne dizaine d'heures. Faut savoir que on va se retrouver avec des petites références cinématographiques plutôt sympas, dont une de Ghost. Je sais pas si vous vous rappelez Ghost. Pas la scène de la poterie, mais il y a un truc qui ressemble un petit peu. Et puis, comme d'habitude, c'est des persos. Si vous êtes premium, vous pouvez voir tout de suite à l'écran. Il y a des personnages qu'on va rencontrer, des brigands. On peut croire que c'est juste des ordures.
Il y a Joël de Last of Us, donc évidemment.
Et en fait, c'est...
Apparemment, il n'y aura pas
que
deux.
Ça. C'est pas que ça. Il y a une histoire de malédiction et d'amour un petit peu contrarié, entre guillemets. Et ouais, ça va nous mener vers des endroits un peu étranges, à faire des quêtes un peu étranges aussi, dans des situations franchement pas banales. Donc, voilà. C'est plutôt... Voilà, niveau histoire... Niveau trame, niveau perso, niveau direction artistique, etc. Ça reste du super The Witcher 3. Mais niveau jeu, ça n'apporte malheureusement pas grand-chose. Heureusement, ça coûte moins de 10 euros en téléchargement.
Ah oui, c'est pas cher.
Et
il y a des boss.
Voilà.
Putain, il y a David
oui,
Beckham
y a des
aussi.
Boss. Et alors, niveau difficulté... Oui, c'est David Beckham.
Non, mais ça Putain, je l'ai vu furtivement là sur les images.
Holgeard, le chef des brigands, c'est David Beckham, oui. Absolument. Et alors, les boss, ils n'ont pas été très bien équilibrés. Ah. Pour tout te dire, il y en a un en particulier, on a eu l'occasion d'en discuter, qui se régénère et tu peux pas trop y couper malheureusement, et ça fait qu'il faut beaucoup de patience avant de se le farcir, comme un autre boss qu'on se fait d'ailleurs à un moment dans le jeu principal. Donc bon, et par moment aussi ils vont te foutre dans des petites pièces avec plein d'ennemis et là tu pourras rien faire. Donc niveau équilibrage, c'est pas trop ça non plus. Il faut compter dessus juste comme une nouvelle quête, plus qu'une extension, je trouve. Voilà, c'est tout.
Période.
Exactement, période.
Mark my words.
Exactement, aussi, je marque my words. Et surtout, on va marquer maintenant
une
le
pause.
Début.
On se retrouve après la pub.
Exactement. Non, mais tu fais bien d'être souriant, Julien,
parce que là, maintenant, on va
tous sourire, puisque nous allons parler un petit peu de nos coups de cœur hors jeu de la semaine, messieurs. Que ce soit Julien et Rami, vous allez me... Et Romain,
Rami, ouais.
Vous allez me dire quelles sont les expériences, les films, les séries, les mangas, et je ne sais quoi d'autre, livres, expositions qui vous ont fait kiffer durant cette semaine. Et je vais d'abord commencer par toi, Romain, parce que quand tu étais au Québec,
oui.
Tu as eu beaucoup de chance.
Oui.
Mais alors, une chance incroyable.
Incroyable.
C'était pile au moment où...
En fait, ça tombe bien parce que la saison 19 de South Park vient de commencer en Amérique du Nord.
C'est incroyable.
Donc, j'ai profité 19. De mon voyage en Amérique du Nord pour utiliser le service de VOD de South Park Studios.
Qui est très efficace. Hein,
en Amérique du Nord, ouais. Mais malheureusement, qui est géobloqué. Donc, en fait, quand tu es en Amérique du Nord, tu peux l'utiliser. En France, ça ne fonctionne pas.
Mince.
Donc, ça, c'est assez dommage. D'ailleurs, quand tu essayes de te connecter en France, tu as un petit personnage de South Park avec un béret et une marinière qui, désolé la France, vous pouvez pas regarder les épisodes de chez vous. Enfin bref, j'ai regardé les trois premiers épisodes de la saison 19, les seuls qui ont été diffusés jusqu'à présent.
Qui traite de quoi, alors?
Et alors c'est génial une fois encore, parce que depuis la saison dernière South Park, ils ont un peu changé leur fusil d'épaule. Maintenant les épisodes, il y a une continuité. Ce qui se passe dans un épisode, ils en tiennent compte dans la suite. Et alors là, cette année, ça parle de la crise des réfugiés, du trop politiquement correct qui est en train de s'installer dans les médias et dans les têtes, de Kathleen Jenner
Le sondage, j'ai vu aussi
avec la subtilité de mais c'est pas la saison 19,
ça me semble. Enfin, mon Dieu, c'est dégueulasse.
C'est
infâme.
Oui, c'est pas la saison 19. Ouais. Enfin bref, Kathleen Jenner donc. De Donald Trump, avec une parodie canadienne de Donald Trump qui est pas mal du tout, et Monsieur Garrison qui devient l'enseignant de South Park qui devient la sorte de Donald Trump local en parallèle, c'est hilarant, et ça parle aussi de gentrification, comme on dit. Tu sais, ce phénomène des zones très populaires qui deviennent des zones un peu chic, un peu bobo, au détriment de la population locale qui est là depuis toujours. Et là, en fait, ils en parlent en créant tout un quartier vachement hype autour de la maison de Kenny. Et alors que la maison de Kenny, enfin, Kenny, c'est la famille la plus pauvre de South Park. Ouais. Et en fait, pour redorer l'image, parce qu'en fait, ça commence, Jimmy Fallon, dans un sketch au début de son émission, se fout de la gueule de South Park, d'où vient le Donald Trump local, etc. Ouais. Et il dit comment on va faire pour redorer le blason de South Park. Et la seule solution qu'il trouve, c'est d'essayer d'obtenir l'ouverture d'un supermarché bio dans South Park. Mais pour réussir à convaincre la société d'ouvrir le supermarché bio, il faut nettoyer un peu South Park. Et leur idée pour nettoyer South Park, c'est de créer un nouveau quartier fashion, mode, hipster autour de la maison de Kenny. Et donc ils ont fait des fausses publicités à partir d'images réelles et de dessins animés. Enfin, c'est comme toujours, si vous suivez un peu l'actualité, et plus précisément l'actualité américaine, Trey Parker et Emma Stone sont tout simplement géniaux. Ils arrivent à tout en derrière une apparence un peu vulgaire, un peu rentre-dedans.
Ah, c'est pas un peu, ça l'est énormément.
Très vulgaire et très rentre-dedans, si tu veux. Réussir à faire passer des messages avec lesquels je suis à 99% d'accord, et je trouve ça génial. Voilà.
D'accord. Et cette saison 19 donc vient à peine de commencer, c'est ça?
Ça vient de commencer aux États-Unis, et c'est vrai que
combien d'épisodes par saison?
Ça change d'une saison à l'autre, et là depuis deux ans, je crois, ils font des saisons de 10 épisodes, donc ça va aller assez vite. Le truc, c'est que la création d'un épisode de South Park se fait en 6 jours, donc c'est un rythme de travail qui est ultra soutenu, qui est intellectuellement éreintant, parce que l'épisode est diffusé le mercredi, le jeudi matin ils sont au bureau pour faire l'épisode de la semaine d'après. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent pas faire 24
épisodes. Mais pourquoi ils s'imposent ça,
pour coller le plus à l'actualité possible. Et d'accord, c'est un rythme de travail de ouf.
C'est un peu comme Plus Belle la Vie, ils essayent d'être vraiment dans le coup, quoi.
Voilà, c'est exactement ça, South Park Plus Belle la Vie,
et ils doublent
les comparaisons. Oui, en plus les mecs doublent même la majorité des personnages, etc. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a un documentaire qui avait été réalisé il y a 3-4 ans, ça s'appelle Six Days to Air, où ils ont passé une saison dans les coulisses de South Park, où ils les suivent. Ils montrent les problèmes qu'ils ont avec la censure, le rythme de travail, les sessions de brainstorming où ils cherchent des idées pour les épisodes, etc. C'est passionnant, et je vous conseille vivement de le regarder si vous pouvez.
Bon, on va rester un peu dans le graveleux avec Rami, évidemment.
Ah, bah oui,
parce que Rami aime bien ce qui est vulgos aussi, et là tu vas nous parler de
Snapchat,
de ce que tu as regardé il y a très peu de temps.
Ouais, en fait,
c'est pas tout jeune.
Non.
Mais ouais, mais c'est un peu sale, hein, on peut le dire.
Ouais,
ça sent la mer même.
Ouais,
c'est vrai.
Ça sent la mer.
On est où là?
Ah bah,
c'est quoi?
J'ai dit la mer, attends.
Ah, la mer.
Oui, la mer.
J'avais pas compris non plus.
J'avais pas compris ça.
Parce que tu vas nous parler d'un
Moby
film,
Dick.
D'une adaptation.
Putain, vous avez vendu Moby Dick comme ça là? C'est génial.
Mais en fait, j'étais toujours dans la période MGS5, et je me suis dit, allez, autant lire Moby Dick et regarder le film.
Ouais. Et le film de quelle année tu as regardé?
1956.
Le film de John Huston.
John Huston, ouais, avec Gregory Peck dans le rôle d'Acab, qui est magistral. C'est un film qui est vraiment, vraiment bon de bout en bout. Et surtout, le commandant Acab et sa folie qui est vraiment très bien retranscrit par Gregory Peck, qui veut à tout prix que tout son équipage le suive dans sa folie. Et c'est ce qu'ils font tous d'ailleurs. Moi, ça m'a fait rire de retrouver un peu les personnages Ellie.
L'équipage du Pequod, quoi.
Du Pequod, ouais. Qui est un peu à l'instar de Venom. Tout le monde le souille.
Tout le monde le souille. Mais à quel Metal Gear t'as joué, Ravi?
La version Jap. tout le monde le suit dans sa folie. Et c'est vraiment, et à la fin, c'est une histoire de vengeance qui tourne mal, en fait. Et du coup, il retrouve Moby Dick. Sauf que, après, je sais pas si je peux spoiler, mais.
Non, le dis pas.
Je vais pas spoiler, mais c'est vraiment une histoire qui. Que moi j'ai adoré de bout en bout, vraiment un film, même s'il date un peu au niveau de. Bon, ça pourrait en gêner certains. Ouais, en Père Maple. C'est celui qui fait le prêtre qu'on retrouve dans le film et qui récite la Bible au baleinier avant qu'il parte en mer et suivre ce maudit commandant.
Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Moby Dick, c'est le nom
de la baleine.
Hein. Ouais, la baleine blanche qui avait essuyé le courroux. Du capitaine Acab une première fois, et qui d'ailleurs avait arraché la chambre du capitaine. C'est pour ça qu'il veut à tout prix se venger.
Un peu comme le capitaine Crochet et le crocodile, quoi.
C'est un peu ça.
Un peu comme Big Boss avec son bras.
Avec son bras, voilà. c'est quoi. Si vous avez l'occasion de si vous avez l'occasion de le voir, je vous le conseille vraiment.
On peut
vraiment
le trouver en DVD, je suppose, en Blu-ray.
Oui, oui. Moi, j'ai vu, il me passe à la télé, donc.
En Laserdisc. En Laserdisc. En VHS. En
Betamax. Au Québec aussi, peut-être. Il y a des chances.
Betamax.
En Betamax, oui, pourquoi pas.
Ouais, pour au Québec, je me demande comment ils ont traduit.
Ouais, ça m'a.
Je me demande comment ils ont traduit le titre au Québec. Parce que Moby Dick, ça sonne trop anglais, donc ils ont forcément trouvé un titre plus francophone.
Ah ouais, c'est vrai qu'ils traduisent tout.
Moi, au Québec, j'ai quand même vu le Terminator, le Parc Jurassique et Dangereux 7.
Non, mais Moby Dick, c'est le nom de. C'est un nom.
Oui, je sais bien. Je sais bien.
C'était une boule. Je vous conseille vraiment de le voir. Ça a très très bien vieilli. Enfin, c'est bizarre que ça a très bien vieilli, même ça date des années 50. Donc du coup.
Bah là, ce dont on va parler avec Julien, ça ne date pas des années 50, mais alors pas du tout, c'est même plutôt récent. Et c'est même si incroyable c'est... en ce moment.
Je sais pas.
Parce qu'en général, on parle de choses très vieilles ici.
Ah bon ?
Ouais, on est un peu trop ancré dans le old.
Bah, la saison 19 de South Park,
ouais, c'est vrai qu'on
est dans le turfu là carrément, même pour nous, la France.
Bah là, on est dans le turfu, mais autrement.
Ah bah là, on est
dans la jeunesse éternelle surtout.
Exactement, voilà, on est à la fois dans le passé, dans le présent et d'une
parce
certaine
que tu
manière
d'un
dans le
film
futur.
Que tu as vu récemment.
Que j'ai beaucoup aimé.
Qui s'appelle
Adaline. Adaline avec Blake Lively, qui est absolument magnifique dans ce film, mais pas que dans ce film. Il faut bien l'avouer. Alors, c'est l'histoire, en fait, de Adaline, jeune femme qui est née au début des années 1900, qui a son mari, des enfants, machin, une petite fille, etc. Tout va bien, ça se passe bien. Malheureusement, comme on le voit sur les images, une nuit d'orage et neigeuse, elle dérape, accident de voiture, et en fait, elle va avoir un arrêt cardiaque.
Ouais.
Elle a 29 ans à ce moment-là. La foudre, donc elle va mourir pendant quelques instants. Et la foudre va frapper sa voiture et l'espèce de petit lac dans lequel malheureusement elle a sombré. Son cœur va se remettre à battre. Sauf qu'à partir de ce jour-là, elle ne va plus du tout vieillir. C'est un thème qu'on a déjà vu hein, dans des films, dans des livres, etc. Mais moi, qui me fascine toujours parce que c'est l'immortalité finalement et tout l'impact. Enfin,
en apparence seulement, on va plus vieillir.
Ah non, 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 ah non. Ouais. Elle a 29 ans, ça y est, c'est figé.
Elle est
son
pas immortelle.
Corps... Ah bah si, complètement.
Oh bah.
Ah non, elle ne vieillit pas physique, les tissus physiques.
Non, mais parce qu'on parle de Blake Lively là quand même, c'est quand
oui,
même.
Ce serait cool.
C'est quand même intéressant, je trouve,
ouais,
le conceptuel.
Ah oui, ce serait super. Ah donc voilà, donc elle vieillit pas. Et du coup, moi ce qui m'intéresse toujours, c'est comment est-ce qu'on façonne sa vie. Parce que. Du coup, à partir de ce moment-là, elle s'interdit. Son mari est mort, hein, bien sûr, aussi, dans l'accident, machin. Enfin, il est mort à la guerre, je crois même. Elle s'interdit l'amour parce qu'elle
n'a
pas
envie
de faire...
je viens de voir le barbu avec elle, là.
Ouais.
Mais c'est une ordure. Tu sais que cet acteur est une ordure.
Ah bon ?
Oui, parce que il joue dans Game of Thrones.
D'accord.
Donc, il est. C'est un acteur hollandais dont je ne me rappelle absolument pas le nom. Si vous êtes premium, vous allez le retrouver.
Je ne le connaissais pas, mais.
Il joue dans Game of Thrones et donc. Il se fait Daenerys dans Game of Thrones.
Et tu le reconnais le mec là que t'as vu aussi?
Ouais, Harrison Ford. Absolument.
Harrison Ford, gros retour d'Harrison Ford au cinéma.
Donc il se fait Daenerys dans Game of Thrones. Il joue aussi dans la série avec Michael Mando qui s'appelle Orphan Black avec une actrice que j'aime bien aussi qui joue 7 personnages, je crois, différents en même temps qui s'appelle Tatiana Mastani. Et bah il se la fait aussi. Donc là t'es en train de me dire que dans ce film,
honnêtement,
et en plus dans une pub Chanel, il y a une pub Chanel aussi. Où
honnêtement,
il se
moi
fait,
j'ai l'impression
plus,
que c'est le nouvel Adrian Brody. C'est-à-dire qu'Adrien Brody a un peu décliné, on le voit plus trop, etc.
Ouais, mais
c'est
Brody, il a un grand nez.
Oui, mais lui, il est, c'est le mec un peu beau, pas très beau, mais
ah, si,
qui a
super...
quand même la classe.
Ah non, enfin, il est super beau.
Bon, bref, l'histoire. Donc, elle s'est interdit l'amour, machin et tout. Sauf que forcément, là, on en est à l'époque actuelle. Hein, donc, un bon 80-90 ans plus tard, sa fille, d'ailleurs, elle, est plus proche des 80-90 ans, alors qu'elle est toute fraîche. Ça pose aussi d'autres problèmes, parce que forcément, au bout d'un moment...
Bah ça doit attirer Christophe Lambert à un moment,
FBI,
non il doit arriver avec son impair et son sabre.
Le FBI s'intéresse à son cas parce que ça commence à tu vois, elle refuse de faire des photos avec les gens parce que au final elle veut pas laisser de traces de ça. Le FBI commence à l'embrouiller un peu, enfin essaie de la choper.
Ils sont au courant, les autorités.
Au bout d'un moment oui, parce que il y a des gens qui meurent autour d'elle, puis elle est toujours là. Enfin bon, bref. Donc elle se met comme règle que tous les 10 ans elle change de nom, elle déménage et en gros elle change de vie. Donc pourquoi ça m'intéresse? Parce que c'est le thème de l'immortalité et de comment est-ce que finalement cette force peut être un fardeau total quand tout autour de toi, par contre, rien n'est immortel. Et donc, c'est assez bien traité. Et elle va donc rencontrer ce charmant jeune homme qui est riche, intelligent et machin. Et elle ne va pas vouloir s'y attacher. Je ne veux évidemment pas tout vous révéler. Mais
comme par hasard,
elle va quand même tomber amoureuse de lui. Et il y a Harrison Ford. Et ça va déclencher quelque chose. Pourquoi est-ce que Harrison Ford, c'est son père? Pourquoi ça va déclencher quelque chose? Bah, je vous laisserai le deviner.
Parce qu'ils se sont connus à la guerre.
Et ça déclenche des trucs. Et c'est plutôt bien joué.
Comment je viens de me spoiler d'un seul coup, en fait.
Non, mais c'est bien joué. C'est bien joué. C'est assez touchant. C'est fantastique, mais sans trop jouer sur le côté fantastique. Moi, j'ai vraiment été pris et je trouve que c'est un beau film.
D'accord, très bien.
C'est un beau film sur l'amour, sur le temps qui passe, sur comment le gérer. Et c'est une belle femme.
Ouais.
Et pour les femmes qui vont regarder le film, il y a un bel homme.
Bah, donc, oui, un très très bel homme.
Faites-vous
là,
plaisir,
vous
tout va bien. Adaline.
Adaline, qui est sorti l'année dernière, c'est ça?
Non, c'est sorti cette année.
Ah, c'est cette année.
Je crois en avril, c'est pas si vieux que ça, mais là ça sort en VOD, tout ça.
D'accord, très bien. Bah, merci.
Découvrez-le. Ça m'a
Julien,
fait plaisir.
Pour cette petite découverte avec Adaline.
Juste du moment, du coup, j'ai une question. Ouais. Vous auriez envie d'être immortel?
Ouais.
Non.
Ouais. Mais tout seul est immortel. Non.
Attends.
Ouais, quand même, je pense.
Non. Pas sans ma femme, en tout cas.
Alors voilà, juste la question supplémentaire, c'est et pourquoi? Romain,
en fait, j'estime pas être phobique de quoi que ce soit. La seule chose qui me terrifie, et ça depuis que je suis tout petit, c'est la mort. Et j'y pense depuis que je suis tout gamin.
Mais si t'es le seul à pas mourir, donc autour de toi, ta famille.
Bah, en fait, c'est le plus gros. C'est
ils vont mourir.
Voilà, ça c'est le plus gros. C'est le plus gros problème. Mais je sais pas. J'aimerais pouvoir connaître l'évolution de la technologie, voir comment les gens vivront dans 150 ans, des choses comme ça. C'est pour ça, en fait, j'ai peur de.
T'as pas peur de trouver le temps long? Genre quand t'auras 422 ans.
J'ai tendance à me dire que tu peux toujours t'occuper parce que les choses évoluent justement. Ce que moi j'avais quand j'étais tout gamin, je ne les ai plus aujourd'hui. Elles ont été remplacées par d'autres choses et ça va continuer à être comme ça. En fait, l'idée, ça serait de rester, d'être immortel, l'idéal, avec une condition physique adéquate. Ouais. Parce que c'est sûr que si t'as 200 ans, mais que t'es comme ça.
Non, bah là, oui, je parlais vraiment en restant normal.
Comme Adaline, oui. Rester à 29 ans éternellement, oui, c'est plutôt tentant.
En
jeu sans
vidéo,
la famille, c'est compliqué.
Puisqu'on est sur Gameblog, en jeu vidéo, il y avait Lost Odyssey qui avait traité cette thématique-là de manière très juste et tout, avec cet homme, Caïm, je crois,
ouais, Caïm,
qui était immortel. Il y avait eu plusieurs femmes, des enfants, qu'il avait tous vu mourir, et c'était assez dur. Ouais. Donc, toi, Plumeau, toi, c'est.
Ah non, même pas sans ma femme, c'est impossible. Je vais pas, il n'y a aucune raison.
Avec Epona.
Avec Epona non plus.
D'accord.
Non. Bah non, mais
c'est ça, en fait, c'est le plus gros truc, c'est sans la famille. Même si au bout d'un moment, après, peut-être que là, on n'en sait rien, mais peut-être que. Après peut-être une génération tout, peut-être que tu t'y habitues, tu t'y fais.
Ouais.
C'est peut-être dur au début.
Ça a l'air d'être pas simple à porter toi.
Non, c'est
non,
dur.
Moi je pourrais pas rester plusieurs centaines d'années puis au bout d'un moment rester seul non.
Avec Snapchat.
Ouais, t'es jamais seul avec Snapchat.
Imagine ce nombre de moments privilégiés que tu pourrais vivre avec les gens.
T'as des moments privilégiés illimités là.
Non mais je préfère vivre ma vie et, je sais qu'à un moment ça va se terminer et puis voilà et j'ai
c'est
pas
prévu pour dans pas longtemps en plus donc
peut-être après ce podcast
non le plus tard possible.
Dites au revoir à Rabi.
Ouais, moi je suis très partagé hein. Évidemment c'est tentant mais c'est la course,
c'est pour ça que je t'ai pas posé la question,
de l'humanité
Et ça y est, il est parti.
Et voilà. Non, mais vous savez que c'est ce que recherche Google en ce moment,
bien sûr,
etc.
Ouais.
Mais est-ce que justement tout le sel de l'humanité, ce qui fait que le monde est monde aujourd'hui, en tout cas, c'est le fait qu'on sait qu'on a un temps donné et que, entre guillemets, soit on s'en fout un peu, soit on veut laisser une trace, mais que.
Ah, bah ça, on l'a laissé déjà la trace, hein. Un peu trop même.
Je ne sais pas.
Si.
Je sais pas.
J'ai eu des quelques semaines compliquées, moi.
Ouais, par exemple. On peut penser à
tout
ça.
Tout ce qui est beau, vous le salissez. C'est pas possible.
C'est un peu ça. Bon, bah,
n'hésitez pas dans le forum, pareil. Est-ce que vous verriez être immortel? Mais alors, vraiment, la vraie question, c'est est tout seul immortel?
À la fin, il
n'aura pas. Avec un casque de réalité virtuelle.
Parce que à quoi ça servirait de travailler? À quoi ça servirait de faire des enfants, même? Pour moi, c'est la fin de l'humanité comme on le connaît. Parce que si t'es immortel, pourquoi tu fais des enfants? T'en fous. Enfin. Tu les fais quand t'as 400 ans, quoi.
Sinon, actuellement, tu es immortel à travers ta progéniture. C'est ça, en fait, le truc.
Ah bah mais tu sais que c'est l'une des raisons plus ou moins conscientes des gens de faire des enfants.
Bah c'est la préservation.
Préservation de l'espèce, etc. De la race blanche.
Fallait que tu la fasses, celle-là.
Attendez, si on peut
plus. Bon, on va clore sur ces bonnes paroles.
C'est un sujet super compliqué. Passionnant, mais très compliqué.
Bon.
Vous m'en ferez 4 pages, merci.
Très bien. Pas, merci pas Romain, Rami et Julien pour ce petit hors-jeu.
Je
merci
t'en prie, plein
fois. Qui aime beaucoup Rami.
Fort instructif. Et merci tout court pour le podcast qui s'arrête ici. On espère que ça vous a plu, que vous aurez des commentaires à nous laisser évidemment à la fin, que ce soit sur Battlefront, sur Metal Gear Online, sur Deus Ex,
sur
ou
l'immortalité.
Sur l'immortalité, ou sur The Witcher, ou sur les hors-jeux, effectivement, dont nous venons de parler. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Merci Rami, merci Julien, merci Romain.
Merci à toi, merci à vous.
À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, on vous aime, et oui, jouez bien. Ciao. Ouh.